Jean chapitre 1, Pierre a été amené au Messie, c'est-à-dire ce que lui a dit son frère André. Nous avons trouvé le Messie. Et ça, Pierre l'a accepté et se l'est approprié. Très important. Il se l'est approprié. De telle sorte que l'ensemble des opinions qui courent sur le Seigneur n'a pas modifié son appréciation. Nous aussi, il nous faut être enracinés dans cette appréciation. Mais ce que nous avons ici au chapitre 16 va plus loin. Il y a le Messie, celui par qui l'ensemble des promesses à Israël vont être réalisées. Et donc, Pierre est en présence de cette promesse. Le Messie est là. Donc, on a la réalisation de ces promesses d'une certaine façon. Mais une deuxième chose, c'est que Pierre ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est merveilleux. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On se rappelle la question que le Seigneur avait posée aux pharisiens concernant le psaume 110. Si David l'appelle donc Seigneur, et donc on a ici un plus grand que David. Ce n'est pas uniquement le fils de David qui est là, le Messie, mais c'est Dieu lui-même qui est là, le Fils de Dieu vivant.
Cette affirmation de Pierre dont le Seigneur lui dit ça t'a été révélé par mon Père. On peut avoir une notion intellectuelle des choses, parce qu'on l'a reçu de quelqu'un, parce qu'on l'accepte, etc. Mais il y a une étape de plus dans le cœur qui vient de ce que Dieu m'a montré dans sa parole et que j'ai cru par la foi. Le Père t'a montré ça. Mais il y a aussi une autre, dans tout cet ensemble de passages de Matthieu 16 et 17, et il y a dans la vie de Pierre et dans nos vies, ce que nous avons cru doit devenir une réalité de plus en plus profonde, et à travers les circonstances, le Seigneur va nous former pour que ce devienne une plus grande réalité. Quand Pierre dit cela, il va y avoir une autre étape que le Seigneur va lui faire, c'est quand il va lui parler de ses souffrances. Oui, il est le Fils du Dieu vivant, mais il va suivre un Christ qui va être rejeté. Et Pierre a du mal à accepter cela. Et c'est peut-être la première étape, si j'ose dire, du travail pratique que Dieu va lui faire faire. Il va falloir qu'il découvre que le Fils du Dieu vivant est un Christ rejeté. Et puis, après, alors qu'il avait bien réagi par rapport aux opinions des hommes, il avait bien dit ce qu'était le Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand il va se trouver sur la montagne face à quelque chose d'extraordinaire, le Seigneur qui est là dans sa gloire avec Moïse et Élie qui sont là, ne sachant que dire, il va dire des bêtises. Non, mais il va montrer ce qu'il y a dans son cœur. Il va, en faisant trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, pour Élie. Sans le savoir, en disant cela, il met le Seigneur au rang d'un prophète, sans se rendre compte. Donc, avant, par rapport à ce que les hommes avaient dit, il avait bien dit ce qu'il fallait dire. Mais là, il le met au rang d'un prophète. Et il y a cette chose merveilleuse, extraordinaire, c'est que Dieu ne le laisse pas là. Il va s'occuper de lui pour lui rappeler, lui révéler encore plus fort qui est Jésus. Et ça va être dans une circonstance extraordinaire. Bon, bien sûr, ça fait partie de la formation de Pierre dont on a parlé tout à l'heure, Pierre apôtre. Mais il va rentrer dans la nuée, un endroit où normalement il ne devrait pas vivre. Mais il est dans la nuée avec Jésus. Alors dans la présence de Dieu avec Jésus, il peut vivre. Et puis il y a la voix du Père qui va parler, lui dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et il y a tout ce travail de Dieu pour que ce que Pierre avait accepté par la foi, certainement que le Père lui avait révélé, certainement tout ce travail de Dieu pour que, d'une façon plus profonde, plus concrète, plus vivante, il découvre, il accepte, il suive celui qui est réellement le Fils du Dieu vivant. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. Et puis il y aura l'autre étape, dont on a un peu parlé tout à l'heure, Quand les gens vont lui dire, est-ce que ton maître paie l'impôt du temple? Il va dire oui. Oui, oui, il fait ça très bien, d'accord, pas de problème. Et le Seigneur dit, viens, viens ici, qu'est-ce qui te... Parlons un peu. Tu as dit quoi? Eh bien oui, il faut payer. Mais est-ce que les fils payent l'impôt du temple? L'impôt du roi? Non. Et le Seigneur va lui dire, est-ce que c'est les étrangers ou les fils qui payent? C'est les étrangers, donc les fils sont donc exempts. Et le Seigneur va faire une étape à Pierre, il va lui dire, Pierre, tu es aussi un fils. Tu es aussi un fils. Tu es le fils du Dieu vivant. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et le Seigneur, qui est à côté de Pierre, lui dit, les fils sont exempts d'impôts, tu vas payer pour moi et pour toi. Pas pour nous, pas pour toi et pour moi, mais pour moi et pour toi. Je suis le fils, mais tu es un fils. Mais quelle merveilleuse étape le Seigneur lui fait faire. À travers les tâtonnements de Pierre, à travers ces moments où il a besoin d'intégrer davantage ce qu'il a reçu, le Seigneur le forme pour qu'il découvre davantage qui il est et qu'il apprenne ce que le Seigneur a fait de Pierre.
Dans la réaction de Pierre ici, nous devons voir aussi toute l'attente messianique des Juifs. N'oublions pas que Pierre est un juif comme les autres, que le pays d'Israël se trouve sous l'occupation romaine depuis l'an 63 avant Jésus-Christ, et que les juifs attendaient la délivrance et l'indépendance de leur pays. Alors le Messie, dans ce contexte-là, était vu d'abord comme un libérateur politique, capable de prendre les armes pour rejeter l'occupant romain hors des frontières d'Israël. « Tu es le Messie, lui dit-il. Confession merveilleuse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cette expression de l'attente messianique de Pierre, comme des autres disciples, probablement dans un premier temps, se révèle tout de suite après, lorsque le Seigneur leur annonce qu'il va devoir souffrir. Il était inconcevable pour un juif que leur Messie, leur libérateur, puisse souffrir de la part des hommes. Et c'est pour cela que Pierre, fidèle à son tempérament, s'avance en disant « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Et nous passons une fois encore d'un extrême à l'autre, alors que sa déclaration vient d'être vue par Jésus comme un roc inébranlable, comme une pierre formidable dans la confession de foi de tout enfant de Dieu, voilà que, quelques instants plus tard, Pierre devient une pierre d'achoppement. Tu mets en scandale. Mais apparemment, il ne comprend pas encore ce que le Seigneur attend de lui, et sur la montagne de la Transfiguration, il propose de dresser des tentes. Or, dans l'Ancien Testament, il y avait un cri de ralliement lorsque le peuple d'Israël était en guerre. « À tes tentes, ô Israël !» C'était un cri de ralliement pour engager la bataille, pour faire la guerre. Et apparemment, Pierre, qui se trouve ici dans une situation exceptionnelle, s'imagine que c'est le point de départ de la dernière bataille, du moment où le Messie, sous une emprise céleste, va prendre les armes et s'engager dans la bataille. Et le Seigneur, une fois encore, avec quelle patience, avec quel tact, est bien obligé de freiner ses ardeurs. Mais Pierre entend quelque chose d'admirable. N'avait-il pas dit, au chapitre 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et il entend cette confirmation au chapitre 17. « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir, écoutez-le. » Et dès que la nuée s'évapore, il n'y a plus là devant leurs yeux que Jésus, Jésus seul. Non pas le libérateur politique, mais Yehoshua, le Dieu sauveur.
Si nous revenons au texte de Matthieu 16, le Seigneur déclare une chose. Tu es bienheureux, Simon Barjonas. Pourquoi? Parce que il vient de confesser le Fils de Dieu dans toute sa grandeur. Et nous aussi, si nous arrivons à la connaissance de... Jean-Luc a rappelé ce verset de Pierre à la fin où il croissait dans la grâce et dans la connaissance. Bon, si nous arrivons à la connaissance du Fils de Dieu tel que nous le révèle le Père lui-même, nous sommes bienheureux. C'est ce que nous devons apprendre par ce que le Seigneur dit à Pierre. Tu es bienheureux. Et tout ce qui arrive sont identifiés au bienheureux qu'est Pierre, que le Seigneur dit ici. La deuxième chose, ce n'est pas la nature humaine qui lui a révélé quelque chose comme ça. Et nous aussi, par la nature humaine, ne pouvons pas faire le moindre petit pas dans cette direction. Et la troisième chose que nous trouvons ici, c'est que la confession de Pierre répond quelque chose que le Seigneur annonce. Et moi aussi, je te dis. Pierre va être introduit dans quelque chose à cause de cette confession qu'il vient de faire, que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Il y a ici la révélation. Pierre vient de faire une... Le Seigneur lui révèle quelque chose. Il lui révèle ce que lui, il va faire, l'assemblée, ce que lui, il va bâtir. C'est moi qui bâtis. Et je bâtirai mon assemblée, auquel tu feras partie. Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. La fin du verset nous montre en quelque sorte le fait que toutes les puissances peuvent s'acharner contre ce que le Seigneur fait. C'est parce que c'est le Seigneur qui le fait, elle demeure inébranlable. Mais pour que cela soit bâti, eh bien, il y a le verset 21. Nous quittons d'une certaine façon ce que Pierre vient de révéler comme Messie pour être introduit dans l'œuvre. Comment le Seigneur lui-même s'appelle? Moi, le Fils de l'homme. Au verset 13. Et c'est celui-là que nous voyons à partir du verset 21.
Les chapitres 1 et 2 de la première épître de Pierre contiennent des enseignements que Pierre a commencé à apprendre dans nos chapitres 16 et 17 de Matthieu. Si on regarde au chapitre 1 de 1 Pierre, versets 6 à 8, il apporte justement la pensée que la souffrance va devant la gloire. Verset 6, en quoi vous réjouissez tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Et à la fin du verset 8, vous réjouirez d'une joie ineffable ou glorieuse. Cette notion que la souffrance va avant la gloire, il a fallu longtemps pour l'apprendre, on l'a dit. Il s'oppose, Dieu t'en préserve, et puis sur la montagne, il s'installe, il propose une installation, des tentes, hein, c'est une installation dans un contexte de gloire avant la souffrance. Et au chapitre 2 de 1 Pierre, une deuxième pensée apprise un peu dans les chapitres 16 et 17 de Matthieu, c'est la notion de pierre vivante. On en a parlé déjà tout à l'heure. C'est bien dans 1 Pierre 2 que l'apôtre dont le nom veut dire pierre, petite pierre, caillou, vient nous explique quelque chose sur les pierres vivantes. Verset 6, 1 Pierre 2, verset 6, parce qu'on trouve dans l'Écriture, voici je pose en Sion une maîtresse pierre de coin élue précieuse. Ça c'est le fondement, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et vous êtes des pierres vivantes, verset 4, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle. Donc toute la notion de construction, de pierre vivante, c'est là qu'il l'explique. Et finalement, le Seigneur le lui a déjà révélé partiellement dans ce chapitre 16 de Matthieu. On a la chance en français que le mot caillou, donc le mot pierre, c'est aussi le prénom. C'est pas le cas en allemand ou en anglais, mais c'est le cas, on va dire, en grec. Hein. Donc c'est bien ça. Tu, le jeu de mots, il est là. Tu es un petit caillou, Petros, et sur ce roc, Petra, sur quelque chose qui a la même nature. Hein. C'est très proche, le jeu de mots est là. Hein, la traduction mentionne bien le mot rocher, roc, qui reprendrait des expressions du rocher dans l'Ancien Testament, quelque chose de bien connu, hein, la comparaison de Dieu comme le rocher. Et la traduction grecque de l'Ancien Testament, les Septante, contient bien ce mot Petra, rocher, le roc, c'est Dieu. Mais le jeu de mots est là. Toi, tu es un caillou, tu es issu, tu es de la même nature, tu es ensemble. Alors, c'est l'impression que le Seigneur prend une pierre et la met sur le gros rocher, là, en expliquant et lui dit, tu vois, il y a un rocher, il y a un roc, il y a un fondement, ça c'est Dieu, c'est moi. Et puis toi, tu es une pierre vivante.
Une question qui est incontournable, qu'on ne peut pas, bien sûr, passer sous silence, bien qu'elle ne concerne pas trop les milieux qui sont représentés ici, c'est la primauté de Pierre. On sait comment ces passages-là sont interprétés dans l'Église catholique, apostolique et romaine. Et il y a ce mot de clé. Lorsque le Seigneur peut lui dire, bien sûr, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et on sait que les clés, ça représente l'autorité, ce qui permet d'ouvrir la porte. Et c'est un symbole d'autorité. Il est intéressant de voir, il est évident que, on ne l'a pas souligné non plus, mais c'est aussi un fait, que Pierre occupe toujours une sorte de première place, de prééminence. C'est un fait, dans les listes qui nous ont été citées, dans tout ce que nous avons lu, il est là par sa personnalité, qui est un peu peut-être parfois aussi pesante, mais aussi parce qu'il est cité en premier. Alors, on pourrait peut-être voir deux, trois choses à ce sujet, à propos des clés. Dans l'Apocalypse, nous avons deux passages qui nous parlent des clés. La première, c'est ce qui nous est dit à l'église à Philadelphie, c'est au chapitre 3 et au verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. C'est une référence à Ésaïe 22, chapitre 22, verset 22, cette clé de David. « Celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. » Et puis, surtout ce passage que nous avons un petit peu avant, au chapitre 1er de l'Apocalypse, au verset 17, au milieu, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. » Et il s'agit bien sûr de Christ. Alors, de quelle clé s'agit-il concernant Pierre? Puisqu'il a quand même, il nous est dit, n'est-ce pas, que « je te donnerai les clés du royaume ». Alors, je crois que ça a été rappelé, à au moins une ou deux reprises, que c'est lui qui a ouvert l'évangile aux Juifs, et puis aux païens, dans la Pentecôte, ce qu'on appelle la Pentecôte des païens, dans la maison de Corneille. Et en ce sens, il a accompli sa mission et sa fonction, que lui avait assigné le Christ, de lui offrir, de lui proposer ses clés. On sait que dans l'iconographie traditionnel, il est toujours représenté, on le reconnaît dans le Collège des Douze, avec les clés, n'est-ce pas? Eh bien, en un sens, c'est tout à fait vrai. Il a ouvert l'Évangile, d'abord aux Juifs, comme cela devait se faire, premièrement, et puis ensuite aux Samaritains et, bien évidemment, aux païens. Et c'est le sens auquel, bien sûr, nous donnons dans ce sens de clé. Alors voilà cette petite précision.
Bah donc nous allons terminer cette matinée. On pourrait peut-être chacun se poser cette question. Finalement, pour moi, Jésus, est-ce que c'est simplement un guérisseur, quelqu'un dont j'ai besoin ou bah, quand ça va mal, comme un peu celui qui viendra m'aider quand j'en ai besoin. Est-ce que c'est simplement un guide pour ma vie? Ou est-ce que vraiment je peux confesser, comme l'a fait Pierre, qu'il est le Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie pour moi, parce que s'il a souffert, c'est pas seulement parce qu'il a été rejeté de ses semblables, mais c'est parce que, un peu plus loin, on le verra cloué sur une croix pour mes péchés, Alors est-ce que je crois cela? Est-ce que je peux confesser que Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui a donné vraiment sa vie pour moi? Mais sa vie ne s'est pas arrêtée là, sur une croix ou dans un tombeau, mais Jésus est ressuscité. Et ça, c'est vraiment ce qui est le moteur de ma vie de chrétien. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant et Jésus vient. Donc cet après-midi, on sera plus occupé à la deuxième partie, c'est-à-dire apprendre à se connaître. Et cette rencontre débutera à 14h30.
Lirons les 11 premiers versets. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils étaient à souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements. Et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre et celui-ci lui dit « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous, vous êtes nets, mais non pas tous, car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous nets. » Matthieu 26. Nous n'allons pas suivre exactement le plan pour faciliter la lecture. Donc Matthieu 26, versets 33 à 46. Pierre répondant lui dit « Si tous étaient scandalisés en toi, moi je ne serais jamais scandalisé en toi. » Jésus lui dit « En vérité, je te dis que cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. » Pierre lui dit « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples « Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que, m'en étant allé, j'ai prié là. » Ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et il vient vers les disciples et il les trouve dormants. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s'en alla de nouveau une seconde fois et il pria disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi sans que je le boive, que ta volonté soit faite. » Et étant venu, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau, et pria une troisième fois, disant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, « Dormez dorénavant, et reposez-vous. Voici, l'heure s'est approchée, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'est approché. » Verset 55. En cette heure-là, Jésus dit aux foules, « Êtes-vous sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour me prendre ? J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout ceci est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. » Alors tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Luc 22, verset 31. Et le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » Et il lui dit, « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » Et il dit, « Pierre, je te dis, le coq ne chantera point aujourd'hui que premièrement tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Verset 61. Le Seigneur, se tournant, regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, comme il lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Luc 24, le verset 34. Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Jean 21, verset 15. Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » en vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et un autre te saignera et te conduira où tu ne veux pas. » Or il dit cela pour indiquer de quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il lui dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, lequel est celui qui te livrera ?» Pierre, le voyant, dit à Jésus, « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Enfin, 1er épître de Pierre, chapitre 5, les 4 premiers versets. « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. »
Donc ce matin, nous avons noté que Pierre était un homme exceptionnel, qui vivait dans une période exceptionnelle, puisque c'est la période où le Seigneur Jésus se trouve là, sur cette terre. Et il a été appelé pour une mission aussi exceptionnelle, puisque c'est à lui qu'ont été données les clés du royaume de Dieu, royaume des cieux, qui a été donc au démarrage de cette ère chrétienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc des situations particulières pour cet homme, mais nous avons pu remarquer qu'un grand nombre de situations qu'il avait vécues, même si ce n'est pas les mêmes que nous vivons, peuvent nous aider à découvrir la grandeur du Seigneur Jésus, de celui qui l'a appelé et qui nous a appelé, chacun en particulier, par notre nom, la grandeur de celui qui peut et qui veut nous aider, nous soutenir, participer à notre quotidien, participer à notre formation pour que nous puissions devenir des chrétiens adultes, capables de vivre notre vie chrétienne personnelle avec Dieu, étant des serviteurs utiles. Nous avons pu donc découvrir avec Pierre un peu, dans ces circonstances, la grandeur, la puissance du Seigneur Jésus qui était là, pas seulement un prophète, pas seulement un homme hors du commun, mais le Fils de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a pu apprendre à connaître le Seigneur et nous avec lui, Et on s'était un peu, on avait terminé avec cette question, est-ce que nous pouvons chacun confesser Jésus personnellement comme il est le Fils de Dieu, je crois cela, il est mon sauveur aussi. Alors, les circonstances qu'a vécu Pierre l'ont amené aussi à le connaître, se connaître lui-même. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'il parlait vite, qu'il était spontané, qu'il agissait vite, quelquefois sans réfléchir. Mais ça a été l'occasion pour le Seigneur de lui apprendre beaucoup de choses. Et on sait qu'il a appris la leçon par ce que nous avons lu à la fin de cette lecture, et en particulier ce que nous découvrons dans les deux épîtres, les deux lettres qu'il a écrites. Donc le thème de cet après-midi, c'est d'abord apprendre à se connaître. Et le premier paragraphe, c'est « Trop de confiance en soi ». Tu ne me laveras pas les pieds. Eux, oui, ils en ont certainement peut-être besoin, mais moi, non. Certainement que sont prêts à te renier, mais moi, jamais. Moi, je te suivrai jusqu'à la mort. Je t'aime tellement, de toute façon, je vais jusqu'au bout. Ça, c'est sûr, c'est décidé. Et alors, la lecture nous a montré que ces bonnes intentions, ce bon désir, c'est vrai, ce désir n'a pas pu l'aider. Mais n'empêche qu'il y a peut-être une chose, je voudrais dire en finissant ce préambule, c'est que dans nos échecs, nous apprenons en tout cas une chose, c'est que Dieu ne nous laisse jamais tomber. Le Seigneur ne nous laisse jamais tomber. Et ça c'est encourageant, parce que chacun de nous, nous avons des moments difficiles, des moments où nous avons effectivement cru pouvoir tenir bon, et puis nous avons lamentablement échoué dans ce projet. Alors nous ne sommes pas laissés sur le bord du chemin, mais on entend cette voix du Seigneur qui avait dit à ses disciples, vous allez venir un moment après moi, ou pour être avec moi, pour vous reposer un peu avec moi. Eh bien, après des moments difficiles de la vie de Pierre, toi, suis-moi. Alors voilà, encouragement, et souhaitons que cet après-midi, qui va nous parler un petit peu de choses qui peuvent être difficiles dans nos propres vies, eh bien, que ça se termine avec des cœurs pleins de courage, sachant que notre Seigneur nous aime tels que nous sommes et veut nous former, justement, pour que nous puissions être à la gloire de son Père. Le premier paragraphe que nous avons lu sur le lavage des pieds nécessiterait peut-être que si parmi nos frères il y en avait qui étaient avec des connaissances historiques en particulier de la période de la vie du Seigneur Jésus puisse nous aider à comprendre quelle est d'abord la pratique habituelle de ces hommes, de ces femmes de la Palestine à l'époque de Jésus, pour mieux comprendre après la leçon spirituelle qui nous est donnée.
Sur le plan de l'hospitalité, c'était une pratique courante dans le pays d'Israël d'offrir à ses hôtes le lavement des pieds, le rafraîchissement nécessaire. Les chemins étaient poussiéreux, la chaleur ambiante était telle que on avait besoin d'être rafraîchi lorsque l'on entrait dans une maison pour y goûter un peu de repos, un peu de fraîcheur. Et le Seigneur n'a eu que trop rarement l'occasion lui-même d'être rafraîchi. Nous connaissons l'épisode d'une maison où il faudra l'intervention d'une femme pécheresse qui remplacera le service que le Seigneur n'a pas obtenu et le Seigneur pourra faire la remarque. Alors ici, ce qui est remarquable, c'est que c'est lui qui paraît être le premier, qui paraît être le maître, qui paraît dominer la scène. Et que fait-il? Il prend la place du serviteur. Nous l'entendrons dire que le premier doit être le dernier, que celui qui dirige doit être comme celui qui sert. Et visiblement, il montre l'exemple. Et c'est ce que, une fois encore, Pierre, qui se fait probablement le porte-parole des 11 autres, nous n'en doutons pas, Pierre ne parvient pas à saisir. Il a bien saisi que Jésus était le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous l'avons vu ce matin, il y est allé de quelques déclarations remarquables quant à la personne du Seigneur Jésus, sur sa gloire, sur sa puissance, mais de voir le Seigneur s'agenouiller auprès des disciples, quel contraste. Et le Seigneur et Pierre a beaucoup de mal à saisir ce contraste-là, ce paradoxe-là. Alors dans un premier temps, il s'en défend, il dit « Seigneur, toi tu vas me laver les pieds, mais tu ne me laveras jamais les pieds. » Et le Seigneur est obligé, par petites touches, comme il le fait toujours à notre égard, de nous faire comprendre progressivement combien son amour est grand, combien il est attentionné pour chacun de nous. Et puis on voit que Pierre verse dans l'extrême opposé, non seulement les pieds, Seigneur, mais aussi les mains et la tête. Et le Seigneur, une fois encore, est obligé de rectifier les choses, de remettre les choses dans le parfait équilibre. Tu n'as pas besoin que tout soit lavé, mais uniquement les pieds. Alors on s'est souvent posé la question de savoir, mais quelle est la portée de ce que le Seigneur lui répond au verset 10 du chapitre 13 ? Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net, et vous, vous êtes net, mais non pas tous. Il parlait bien sûr de Judas. Mais nous n'avons besoin que de nous laver les pieds. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque nous sommes passés par la conversion, lorsque nous avons accepté l'œuvre de la croix, nous avons obtenu ce salut éternel. Nous avons été régénérés par l'Esprit qui habite en nous. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à commettre des erreurs, à avoir de mauvaises pensées, à pratiquer de mauvaises actions. Et nous savons le recours que nous avons, tout en étant net globalement, tout en étant net quant à notre avenir éternel. Nous savons que nous appartenons à Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu pour le temps et pour l'éternité, grâce à l'œuvre de la croix. Il est des fautes qu'il faut continuer à confesser. Et nous devons aller voir dans la première épître de Jean ce qu'il nous est dit à ce sujet. Première épître de Jean, et au chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Voilà le lavage des pieds. Lavage des pieds spirituel, s'il en est. Nous avons besoin de nous représenter devant le trône de la grâce pour confesser nos péchés, pour demander pardon. Et si nous le faisons d'un cœur honnête et bon, si nous confessons sincèrement nos péchés, nous avons affaire à celui qui est fidèle et juste, non seulement pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il nous lave. Il nous lave les pieds, comme en Jean 13. Il nous lave surtout par la parole, puisque c'est par la parole que nous avons cette efficace d'être continuellement lavés chaque fois que nous avons commis une mauvaise action.
Dans nos pays, quand on arrive de voyage, on nous sert à boire et on nous fait passer à table. Au Brésil, on vous fait passer sous la douche. C'est normal, c'est presque impoli d'aller à table sans aller prendre d'abord sa douche. Et c'est un peu la même chose. Hein. C'est une marque d'hospitalité ici. Verset 1er, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et après, il prend cette position de serviteur. Ça peut faire penser au serviteur hébreu qui aime son maître, sa femme et ses enfants et qui ne veut pas sortir libre, qui veut servir jusqu'à la fin. Qui les aime jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ils aiment tellement qu'ils veulent continuer à servir. Et là, le Seigneur, c'est l'exemple qu'il donne. Et à propos donc de cette différence de ce verset 10, ce corps lavé, ce corps baigné, et puis ce lavage des pieds. C'est le bain et le bassin. Le bain et le bassin. Le bain, c'est ce qui est fondamental, c'est ce qui est initial, c'est ce qui est complet. Et le bassin, c'est ce qui va entretenir. Donc tout ce que Pierre vient de développer. Ben, la conversion. Alors, on a déjà un exemple de ça dans l'Ancien Testament, dans chapitre 29 et 30 de l'Exode, où on a le bain initial, on va dire, des sacrificateurs, chapitre Exode 29, 4. Hein, à peu près sur la même page, on a les deux, le bain et le bassin. 29.4, Exode 29.4, et tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Ça, c'était le grand lavage initial de la consécration. Et au chapitre 30, verset 18, ça doit être la page d'après, tu feras aussi une cuve d'airain et son soubassement d'airain pour s'y laver. Et tu la mettras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Et Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Donc un grand lavage initial à la consécration, et puis le lavage continuel. Il y a donc toute l'application qu'on en a faite sur notre communion avec le Seigneur. Le bain, c'est notre union avec le Seigneur. Le bassin, c'est notre communion avec le Seigneur. Initial, définitif, fondamental, et puis entretenu. Et on peut certainement en faire une application dans beaucoup de domaines. Hein, il y a un an et demi, lors d'un mariage dans cette ville, on avait fait l'application au couple. Il y a un bain, c'est le mariage, c'est initial, c'est fondamental. Et puis il y a le bassin, c'est on entretient tous les jours, on entretient l'amour, on aime parce que c'est une décision d'aimer, et on se pardonne, et on s'écoute. Et puis sûrement dans l'église, il y a le bain, c'est la formation initiale, c'est on est unis ensemble dans un corps, mais après on maintient, on entretient, garder l'unité de l'esprit par le lien et la paix. Le bain et le bassin, c'est sûrement très riche.
Il y a dans ce passage aussi un exemple, dans l'exemple du Seigneur, la première chose qui nous est présentée, c'est son amour, ayant aimé les siens. Et la deuxième chose qui nous est présentée, c'est son service. Il se met aux pieds des siens. On peut servir sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans servir. Et le Seigneur Jésus nous montre là un exemple. Alors il va s'approcher de Pierre. Et il lui dit, si je ne te lave, si je n'entretiens pas la vie, tu n'as pas de part avec moi. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est cette part avec lui? Il ne s'agit pas du salut, tu as tout le corps lavé, tu es sauvé. Mais s'il n'y a pas cet entretien permanent, qui n'est pas forcément que par rapport au péché d'ailleurs, combien de fois nous sommes fatigués, découragés, on a besoin d'être encouragés à nouveau. Il peut y avoir le péché qui nous arrête, il peut y avoir d'autres choses. Alors quelle est la quelque chose de la part qu'on a avec le Seigneur? On l'a, il me semble, dans les chapitres suivants. Au chapitre 14, au verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » La paix du Seigneur, une paix partagée. Un peu plus loin, au chapitre 15,